Succombez au goût de l'Asie avec la nouvelle gamme halal de O'Hanam. Name élu saveur de l'année 2024. Samoussa, brioche et bouchée au filet de poulet halal origine Europe. Disponible chez O'Hanam Traiteur, Paris 13e, H-Market et Tang Frère.
16h, 17h, chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans Chacun son tour avec le grand chef Enzem. Comment ça va,
Nabil? Bonjour Manu, bonjour à toutes et à tous.
Oh, t'as une petite voix aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le ramadan commence à être long?
Non, c'est toujours un bonheur. Non, c'est toujours un bonheur de le faire, mais c'est un peu moins d'eau qui a été bu hier pendant le tour et pendant toute la nuit.
Ah, t'as pas fait tes réserves?
Non, j'ai pas de réserve.
T'as pas fait le chameau pendant
Ouais, donc je me sens un peu comme une plante, comme un basilic qu'on n'a pas arrosé.
Oh, c'est mignon.
Ouais, effectivement, ouais.
Est-ce qu'il est bucolique, le chef?
Je suis très bucolique, mais pas alcoolique.
Non, pas alcoolique. Pas alcoolique, c'est ça, oui. Il veut que je mette des petits rires parce qu'on a des jingles.
Ah bah merde, alors tout le monde rigole. Et quand c'est flop, c'est quoi quand je flop une blague? Oh non, bien. Non,
bien. Okay. Qu'est-ce qu'il aime les jingles, le chef?
Oui, bah, ça m'amuse, moi, en plus. Ouais, mais ouais. Je m'amuserais vraiment avec ces jingles quand c'est moi qui appuierai sur les boutons. Vous savez, mais alors là, le problème, c'est que l'émission ressemblera plus à rien.
Pas de problème, je sais que je suis chez toi.
C'est gentil, Manu. Je vais te passer
les commandes.
Eh, mais mine de rien, Manu, ça fait bien 3 ans maintenant que je viens chez Beurre FM.
Eh ben ouais.
Ça fait bien 3 ans que je viens chez Beurre FM.
Eh bien oui.
Et toujours avec cette formidable entente avec toi déjà, parce que
c'est gâteau, on va finir nos jours ensemble.
Enfin,
toi, j'espère beaucoup plus tard que moi, mais
non, mais c'est vrai, Manu, c'est bien. Donc, je suis très
Moi,
content.
C'est un plaisir pour moi. Moi, je suis ravi que tu prennes le temps de nous venir comme ça, de venir nous voir comme ça tous les jours pendant le ramadan, parce que je sais que tu es très occupé, tu es demandé de partout, plus en plus populaire et on se dispute ta présence partout.
Non, peut-être pas non plus, mais c'est gentil de dire ça. Mais non, j'ai pour parler cuisine, pour parler de ma passion, il n'y a jamais de souci. Bien évidemment, c'est très difficile avec le travail parce que je continue à exercer en tant que consultant pour les restaurants. Je crée des cartes de restaurants, je vais dans les restaurants pour optimiser les dépenses, les budgets,
ouais,
et
oui,
le gaspillage, surtout
de revient, etc.
Et surtout je crée des plats signatures, donc ça me prend un temps fou, il faut former après, mais voilà, toujours un peu de temps pour parler de cuisine. Et puis j'ai mes réseaux sociaux, je fais aussi beaucoup de partenariats,
beaucoup de super vidéos, des médias très populaires, des partenariats,
donc c'est vrai que ça me prend un temps fou, mais il y aura toujours le temps pour mon cher Manu.
Ah bah c'est gentil, c'est
et aussi mon cher Philippe que je salue parce que je l'ai pas vu.
Oui,
Philippe,
c'est vrai,
je pars à chaque fois avant,
un petit peu avant.
J'adore Philippe Robichon, je lui fais un gros bisou.
Oui, mais je suis plus gentil quand même.
T'es mon préféré. Manu, tu es mon préféré. D'ailleurs, Manu, je lance devant tout le monde un appel en public.
Bon, Philippe, si tu m'écoutes, je plaisantais.
Non, Manu, Philippe, il sait que je l'adore. Il nous faut un resto. On n'a pas refait de resto depuis 1 an.
C'est vrai.
Je veux qu'on se fasse un resto.
On avait mangé à l'Agapé, restaurant étoilé. Suite à notre passage, il a perdu son étoile.
Ouais, est-ce que c'est pas suite à ta critique? Parce que t'as fait une revue culinaire,
culinaire. Mais moi j'ai fait une revue.
Mais elle était très bonne.
Une critique très positive.
Elle était très bonne.
On a très bien mangé. Ça méritait l'étoile quand on y est allé.
Exactement. Ah oui, c'est ce qu'on disait.
Ouais. Mais
on sentait qu'on était dans l'étoilé.
Le guide Michelin parfois prend des décisions.
Non, mais il suffit qu'il passe à un moment.
Mais voilà.
Oui, il y a eu un jour où il y a eu un loupé sur un truc.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver, bien sûr.
Tu es le mieux placé pour le savoir.
Dans des étoilés que j'adore, il est arrivé que je repasse dans le même étoilé et un jour une préparation était beaucoup trop salée. Et là, c'est pas de la faute du chef, parce que le chef c'est à un moment humain.
Il y a des collaborateurs, etc.
Exactement. Mais ça peut arriver. Moi, je sais que j'étais passé chez un. Je vous parle de ça, c'était il y a 2-3 ans, très 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 salé. Je dis oulala, si Michelin était passé ce jour-là, c'est mort. C'était très salé. Enfin bref.
Bon, on va passer du très salé au très gourmand, parce que tu nous emmènes à Tunisie et tu vas nous proposer une recette d'odja à la tunisienne qui va nous permettre de recycler des restes de viande, des restes de légumes ou les deux en même temps. Alors on t'écoute, chef Enzem,
odja à la tunisienne, mais d'abord jingle à la tunisienne.
Tu sais que à chaque fois j'oublie qu'il y a du jingle, mais toi tu n'oublies jamais.
Oui, parce que c'est mon Nutella.
Allez go.
Les recettes de la flemme. Chef Enzem.
Alors, une recette d'odja à la tunisienne.
Avant de commencer, Manu, parce qu'on se parle côte à côte là.
Ouais.
En toute honnêteté, en toute transparence.
Oui.
Comment est mon haleine? Je vous ai pas tué?
Ah, la question qui tue.
Non.
Alors, ton haleine ne tue pas, mais la question, oui.
Parce que je vous ai dit, j'ai pas bu beaucoup d'eau.
Ouais.
Je sens que je parle beaucoup. Je sens que Manu, je sais pas, j'ai pas vu Manu faire de recul.
Quand il arrive, Nabil, en ce moment, il ose pas me faire le bisou.
Non, je
fais le bisou, alors, mais il me tend l'oreille, il me tend pas la joue, il me tend l'oreille.
Je te fais la bise, Manu, mais j'ose pas te parler, dire Manu, comment? Parce que j'ai peur de te. Tu vois? Donc, je fais ça, je fais. Et tu vois?
Oh mon dieu.
Ça va, Manu, y a pas eu de problème aujourd'hui?
Non, mais Il n'y en a jamais eu. C'est une idée que tu te fais. Hein.
Bon, non, mais parce que c'est Ramadan, on a tenu des fois la bouche un peu sèche, on a peur des fois de. Voilà. Bon, allez, les Tunisiens, vous savez que je vous adore. Ma tante s'est mariée, mon oncle s'est marié avec un bon oncle, pour le cas de mon oncle, avec une Tunisienne, et ma tante Zoubida, à qui je fais un gros bisou, mon oncle Zahir, à qui je fais un gros bisou, marié aussi avec des Tunisiens, mes cousins tunisiens, à moitié bien évidemment, algériens, kabyles. Donc, je voulais penser encore à vous après les briques à la Tunisienne avec l'Odja à la Tunisienne.
Explique aux éditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est que l'Odja.
L'Odja, si vous préférez, je vais pas dire que c'est une sorte de chouk-chouka, mais c'est dans le principe, on met tout dans une grande poêle.
C'est un grand mix, quoi.
C'est un grand mix, et à la fin, il y a les œufs qui se cassent. Donc, c'est très intéressant. Les gens, ils vont y mettre de la merguez, des gens, ils vont mettre de la saucisse, des gens, ils vont y mettre du bœuf. Ça dépend des régions. Donc, je parlerai jamais en disant, il y a une telle recette de Odja, il y a autant de Odja qu'il y a de
familles. C'est comme la chakchouka, enfin, je veux dire, chaque famille a sa recette.
C'est exactement ça. C'est pour ça que ça sert à rien de dire, si vos parents ne la font pas comme ça, bah, c'est normal. Vos parents ont leurs secrets, ont leurs recettes et ont surtout adapté leur cuisine en fonction des goûts de leurs enfants.
Et vous-même, on vous invite à modifier un petit peu les recettes. C'est bien de garder en tête la recette traditionnelle d'origine, celle de votre grand-mère, celle d'un grand chef ou autre. Mais n'hésitez pas à pimper, que j'aime bien dire pimper. N'hésitez pas à pimper les recettes et à les adapter à vos goûts et à vos compétences aussi. Parfois, il y a des gestes un peu techniques. Il y a toujours moyen de contourner un geste technique et de faire à sa sauce.
Tout à fait. Et là, ce que j'aime sur cette Odja, je m'en suis inspiré, c'est qu'on va recycler tout ce qui reste de la veille. Et moi, ce que j'ai lancé sur mes réseaux sociaux, c'est le challenge. On mange mieux le lendemain avec les plats de la veille. Et c'est ça que je lance comme nouveau challenge dans mes dernières vidéos. Je vous parie que je vous fais meilleur avec les repas de la veille. Et là, les repas de la veille, ça va être quoi? Des carottes qui traînent, pommes de terre déjà cuites. Vous prenez vraiment tous les légumes. S'ils sont pas de la veille,
on ne jette rien. Voilà. C'est scandaleux après, de jeter. Ouais.
Si vous avez pas de pommes de terre de la veille, vous en faites cuire. Hein. C'est pas compliqué. Hein. N'allez pas inventer des légumes qui n'existent pas de la veille. Mais je veux dire, si vous en avez de la veille, vous les prenez tous. Allez, on prend tout, peu importe ce qu'il y a. Et si vous manque des pommes de terre, faites-en cuire une ou deux que vous allez couper en morceaux. Donc ça, c'est les légumes de la veille. Qu'est-ce qu'on a d'autre de la veille? On a de la viande. On a de la viande de la veille.
Surtout pendant le ramadan, on surconsomme la viande.
Si c'est de la volaille, c'est de la volaille qu'on va couper en gros cubes. Si c'est du bœuf, on va la couper en petits morceaux. Et si c'est du poisson, c'est du poisson. On coupe en morceaux, on met tout ça de côté. Voilà. Peu importe la protéine, vous la mettez de côté, vous la coupez en petits morceaux. Mais comme elle est déjà cuite, on va pas la surcuire. On va juste la réchauffer.
On la mettra à la fin.
Oui. Exactement. Qu'est-ce qui vous reste de la veille aussi? Les tiges de persil, là, que vous mettez, là, dans votre, shorba, dans tous vos plats. Vous effeuillez le persil. Qu'est-ce que vous en faites des tiges? On va les utiliser dans notre odja aujourd'hui.
Oui, c'est vrai les tiges de persil, de coriandre, tout ça, etc.
La coriandre, ça va parce qu'il
y a du goût dedans.
Il y a du goût. La coriandre, ça va, elle est plus digeste, on peut la manger directement. Donc les gens utilisent les coriandres. Mais la queue de persil, elle est très filandreuse. Donc les gens la mixent pas, la mettent pas dans les robots, la mettent pas dans la shorba. Voilà.
Mais on peut la mettre, la tige entière dans quand c'est un ragoût.
Ça peut infuser, exactement.
Ça infuse, ça donne du goût. Le goût est bon, c'est la texture qui est pas bonne, mais ça, on les enlève à la fin.
Mais moi, je vais utiliser cette fois, pas l'infusion, mais carrément la tige entière. Et là, on va la manger. Exactement. Donc, c'est parti.
Tu vas nous faire des chips de tige?
Non, vous allez voir, encore plus simple que ça. Vous allez voir, c'est très particulier. Donc, c'est parti pour notre inspiration Odja anti-gaspi. Tous vos légumes, un filet d'huile d'olive, bam, ils sont snackés à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien faire quand c'est la saison des tomates, c'est des petites tomates cerises parce qu'elles tiennent mieux à la cuisson, elles sont plus fermes.
On les laisse entières.
Moi, je les fais en deux, moi.
En deux, d'accord.
Moi, je les fais en deux parce que entières, c'est quand même costaud quand tu tombes là-dessus sur la bouche.
Elles vont confier un peu.
Mais elles tiennent à la cuisson. Donc ça, c'est quand c'est la saison. Voilà. Là, on en a pas, c'est pas grave. Donc on met ça. Ça peut être du feu-le-feu, enfin du poivron, du piment, ce que vous voulez. Bam, les légumes rissolent dans l'huile d'olive, une bonne huile d'olive, du bled. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On rajoute notre viande qui va juste réchauffer. D'accord? Elle est réchauffée, la viande. On snack, on continue à faire tourner. Qu'est-ce qu'on y met ensuite? Quelques olives concassées. Bam, 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 bam. Des olives, on met tout ça à l'intérieur.
Donc, sans noyau alors.
Hein, sans noyau, bien évidemment. Donc on a
met
des
quoi,
olives.
De la verte, de la noire, ce qu'on veut?
On met ce qu'on veut, ce qu'il y a à la maison. D'accord. Voilà. Hein, si vous avez ce que vous avez à la maison,
moi,
vous
mettez.
Moi, je suis team violette, multicolore.
Ah oui, les olives.
Celle-là, j'aime bien, moi, dans la Odja, j'aime beaucoup.
Violette, calamate.
Ouais. Mais la verte, pour moi, elle est pas terrible, la petite verte simple, là, vous savez, dans les beaucoup. Je suis pas fan de
ça. Non, il y a un peu d'acidité,
Elle est très salée, en plus. Donc, je suis pas fan.
Et attention, voilà. Alors, je donne quand même un conseil, je le rappelle souvent aux auditeurs. Quand vous achetez des olives, vérifiez bien qu'il n'y ait que des olives.
Oui,
dans la composition. Parce que il y a beaucoup de marques qui vous vendent des olives. Ça se fait surtout sur les olives noires dénoyautées.
Tout à fait.
En fait, souvent, ce sont des olives noires qui sont colorées.
Tout à fait.
Donc, quand vous voyez des olives noires confites, vous n'achetez pas. Quand vous voyez des olives noires et que vous regardez la, les ingrédients au dos, que vous voyez qu'il y a une espèce de produit chimique, hein, j'ai oublié le nom exact, mais ça vous n'achetez pas non plus. Je vais le retrouver d'ici la fin de l'émission, je vous le donnerai. Vous n'achetez pas. Vous n'achetez que des olives dont la composition c'est olive, éventuellement de l'eau, du sel, de l'huile d'olive, mais rien d'autre.
Okay. Voilà. C'est, je suis entièrement d'accord, Manu. Merci de cette parenthèse, mais c'est important de le dire parce que sinon c'est encore des produits chimiques et et des trucs tout bizarres.
Et puis surtout, c'est pas des vraies olives noires, donc c'est faites le test. Hein, ces olives noires dites confites. Vous mangez une olive verte en fermant les yeux et après vous mangez une olive noire, vous faites pas la différence. Et l'œil en fait nous trompe et l'œil envoie des signaux au cerveau comme quoi on mange une olive noire, mais si vous goûtez à l'aveugle, les yeux fermés, vous allez voir que l'olive noire a exactement le même goût que l'olive verte.
D'accord. Bon, bah, écoutez, voilà, j'espère que pour nos auditeurs et nos auditrices, ça sera clair. Pour finir notre petit oja, Manu, alors j'ai oublié de le dire, mais on peut hacher un petit oignon nouveau de la cébette dans l'huile d'olive avant de lancer les légumes. Hein, on peut faire confire un petit oignon. Hein, y a pas de souci là-dessus, bien évidemment. Là, le but c'est de vraiment faire au plus simple. Quand on a mis nos olives, qu'on a fait compoter un petit peu tout ça, attention, hein, faut pas surcuire la viande. Là, le but c'est de la réchauffer. Donc on met la viande ou le poisson qui traîne ou la volaille qui traîne, juste un petit court comme ça. Ça va juste se réchauffer et c'est là qu'on peut casser nos œufs. Quand elle a pris un peu de chaleur, on y casse nos œufs, on couvre et c'est la cuisson avec le couvercle qui va permettre d'avoir un jaune coulant. Parce que si vous cassez vos œufs et que vous attendez que le blanc coagule sans couvrir, vous allez faire coaguler le blanc et cuire le jaune d'œuf. Donc vous posez d'abord vos œufs et ensuite vous couvrez. Et cette petite cuisson vapeur va cuire le blanc d'œuf très rapidement, mais laissez votre jaune coulant. Donc vous en mettez autant que vous voulez des œufs et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est là qu'on va donner du goût à cette oja anti-gaspi, Manu, et je suis sûr que ça va vous plaire parce que une fois qu'elle est dressée, cette oja, vous savez, moi, ce que j'aime bien faire, vous avez remarqué, j'ai pas parlé de sel une seule fois.
Maintenant, les olives déjà sont un peu salées.
Il y a les olives, mais même si on n'a pas mis beaucoup d'olives, il y a quand même des pommes de terre, pas mal de légumes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un citron confit. Vous allez l'ouvrir en deux, vous allez retirer la chair à l'intérieur qui est beaucoup trop salée, beaucoup beaucoup trop salée.
Oui, oui.
Vous retirez la chair, vous gardez que la peau de ce citron confit et vous allez détailler en toutes petites brunoises et vous allez parsemer tout autour de votre oja ce citron confit qui va apporter de la fraîcheur et du sel. Et dernière chose, j'avais parlé des tiges de persil, on va les concasser très finement, un peu comme si on achetait de la ciboulette.
D'accord, oui, qu'on va ciseler, ouais.
Comme la ciboulette, exactement pareil, donc vraiment, vraiment, vraiment ciselé. Et vous allez mettre vos tiges de persil tout au-dessus, ça va amener une note végétale et herbacée qui va casser le gras du plat. Et ça va s'harmoniser parfaitement avec l'huile d'olive, les olives, le citron confit, et là c'est régalade.
Magnifique. Alors pendant que les auditeurs buvaient tes paroles de cette belle recette, j'ai vérifié donc le nom de cet additif qu'on met dans les olives vertes pour en faire des olives noires, c'est du gluconate ferreux.
Ah, donc, le voilà. Gluconate, je savais pas du tout. Je savais même pas que ça existait.
Et donc ça c'est un espèce de solvant, c'est dégueulasse, hein, et ça va teindre les olives en noir, sauf qu'elles sont toujours des olives vertes, donc elles sont pas mûres. Parce que c'est les mêmes olives, hein, les olives vertes et les olives noires, ça pousse pas sur des arbres différents, c'est simplement.
Oui, bien sûr,
l'olive noire est mûre et l'olive verte n'est pas mûre.
Très bien.
Donc achetez des olives noires en regardant bien la composition et vérifiez que elles n'ont pas de gluconate ferreux, que ce sont pas des olives noires confites. Voilà,
super.
Ça c'est bon, on a pris le temps de vous le dire, on a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas du temps perdu justement puisque c'est important de veiller à la qualité des choses qu'on mange, mon cher Nabil.
Tout à fait. En attendant, bah, régalez-vous de cette belle recette. Montrez-moi vos résultats comme d'habitude. Et puis, moi, je vous dis à demain, Manu, toi, je te laisse continuer.
Non, lundi maintenant, parce que c'est vendredi.
Ah oui, ben oui, ça passe très vite.
Ça passe vite,
lundi,
hein, mon cher.
Lundi.
Et puis, lundi, on va recycler tous nos restes de pain. Ça va être une super recette.
Ça c'est un truc aussi coup de cœur, ça qui arrive.
Ça va plaire. Toutes tes recettes plaisent toujours, mais celle-là, je pense qu'on va monter d'un cran.
Ouais, tout à fait.
Allez, restez avec nous. Puisque juste après, on retrouve notre invité du jour et nos chroniqueurs pour des adresses où aller faire la rupture du jeûne pendant le ramadan. A tout de suite après la pause.
Chacun son tour revient dans un instant.
Suivez Chacun son tour avec la nouvelle gamme halal de Oanam.
16h, 17h, Chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans Chacun son tour, l'émission qui vous met en appétit, mais bien avant l'heure à laquelle vous pouvez manger si vous jeûnez. Mais bon, on n'est pas si cruel que ça. Hein. On n'est pas si cruel que ça. On vous donne plein de bons plans, plein de bonnes adresses avec nos chroniqueurs. Et puis on vous apprend plein de choses. Ça va être le cas aujourd'hui, tenez-vous bien, avec notre invité du jour, puisqu'il s'agit de Constance Bonaventure, qui est réalisatrice de documentaires, chroniqueuse radio, journaliste et auteure. Là, elle nous... Elle est venue nous présenter son livre Les secrets de la gomme arabique qui paraît, alors c'est une avant-première puisque ça paraît le 3 avril je crois, Constance, c'est aux ça. Éditions Flammarion. Donc on est les premiers à en parler.
Vous êtes non, il y a déjà eu des concurrents, pas des concurrents directs, mais
non, nous on n'a pas de concurrents, on a que des confrères et des consoeurs. non. Et les secrets de la gomme arabique. Alors c'est vrai que la gomme arabique, on connaît ça beaucoup en pâtisserie, hein, parce que c'est vrai que surtout dans les pâtisseries orientales, les pâtisseries du Maghreb, les pâtisseries du Levant, on utilise la gomme arabique. Hein, mais en lisant votre livre qui est très bien documenté, je le précise. Des très très belles photos.
Hein. Oui, très belles photos de
on voyage
de
vraiment en lisant
Véronique.
Votre livre. Ouais. On apprend tout un tas de choses. Alors déjà, avant de rentrer un petit peu dans le détail, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a initialement attiré vers le sujet de la gomme arabique pour en faire un livre ? Parce que c'est vrai que c'est comment dire, c'est une niche, on peut dire.
Tout à fait. Alors je vous rassure, je connaissais pas du tout l'existence de la gomme arabique il y a encore 3 ans. J'en ai entendu parler par mon mari qui revenait du Mali et qui m'a parlé de ce produit que je ne connaissais
oui,
absolument pas.
Le Mali
qui
est un gros producteur de
voilà,
gomme arabique.
Exactement. Hein. Et avec la personne donc qui a réalisé la plupart de ces photos, une amie photographe, on s'est dit que ça ferait un beau sujet de reportage. Donc ça a d'abord avant tout été un reportage.
Oui, c'est la réalisatrice de reportage d'abord qui
voilà.
a eu l'œil.
Donc on a réalisé un reportage qui a été diffusé dans le magazine Géo, qui est un magazine de voyage, de découverte. Mmh. Et on a un reportage qu'on a réalisé au Soudan. Et en fait, ensuite, on a été contacté par Flammarion qui s'est dit que ça pourrait faire aussi l'objet d'un livre. Et donc voilà comment je me suis intéressée petit à petit.
Mais c'est intéressant. C'est en ça que je dis que votre livre fait voyager aussi avec les images, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'iconographie, il est construit comme un reportage.
Exactement.
Qu'on peut trouver à la télévision ou ou dans des magazines, des bons magazines comme Géo. Alors justement, en tant que journaliste et réalisatrice, comment est-ce que vous avez abordé la recherche, la documentation pour votre livre, puisque justement il y a 3 ans vous ne connaissiez pas du tout la gomme arabique?
Alors pour le livre il y a plusieurs phases, il y a plusieurs, d'ailleurs on le voit dans le sommaire, il y a toute une partie sur l'histoire. Donc là je me suis beaucoup renseignée, j'ai utilisé pas mal d'archives, j'ai été notamment à la bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris pour essayer de comprendre un peu à la fois scientifiquement qu'est-ce que représentait cette plante et aussi dans l'histoire, parce qu'il
y a toute une plante à la base, hein. Quand on le voit on a l'impression
plante,
ça ressemble
pardon,
à de la pierre d'Alain,
ouais, c'est un arbre en fait, ouais. La gomme arabique, c'est peut-être qu'il faudrait
avec des petites fleurs jaunes très mignonnes,
ouais.
Qu'on voit
c'est
dans
un,
le livre,
c'est un acacia en fait, mais un acacia qui pousse seulement au Sahel, on l'appelle l'acacia du Sahel, ouais. Qui pousse dans une bande du Sahel,
oui, il y a une espèce de ceinture en
voilà,
Afrique,
on appelle ça la gomme belt en anglais, la ceinture de la gomme en français, et ça va en grosso modo du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie, Djibouti, ça fait toute une bande comme ça, et c'est là où l'acacia du Sahel pousse, notamment parce que c'est une bande où il fait une région où il fait très très chaud, et c'est un arbre qui a besoin d'avoir un stress hydrique pour pousser. Et donc la gomme arabique, c'est pas un fruit, c'est pas une plante, c'est l'exuda qui sort. Ça ressemble à de la sève
en fait.
C'est
une résine un peu quoi.
Exactement, ouais. Exactement.
Mais qui cristallise en fait. Hein,
qui finit par sécher, ouais. Et a formé une espèce de boule, une boule ambrée que vous voyez bien dans le livre, qui est assez jolie, hein, d'ailleurs. C'est une petite boule.
On dirait une pierre précieuse presque.
Exactement.
Mais pas encore taillée. Hein,
Exactement. Ça ressemble à une pierre précieuse. Et ensuite, elle est transformée, etc., jusqu'à se retrouver dans nos cosmétiques, nos crèmes, notre alimentation, etc., etc.
Bon, alors parmi nos influenceurs chroniqueurs du jour, on a Linda, Let's Cook Tonight.
Bonjour.
Alors toi qui cuisines, Linda, est-ce que ça t'arrive d'utiliser de la gomme arabique dans les pâtisseries?
Alors, pour être très honnête, non, jamais. Mais je suis très intéressée justement d'en savoir plus.
Alors c'est très méconnu, beaucoup, hein. Ça commence à arriver petit à petit dans les cuisines des particuliers.
En pâtisserie orientale, c'est utilisé, mais c'est vrai qu'ailleurs, je l'ai jamais.
Oui, dans la pâtisserie classique, on en voit peu. Et pourtant, parce que c'est vrai que la gomme arabique, c'est ça contribue à une alimentation plus saine. On peut faire des produits véganes, végétariens, 100%. Et puis, ça permet aussi de réduire. Ça peut améliorer le profil nutritionnel. Et ça peut réduire l'utilisation de sucre tout en conservant la texture et la saveur. Alors, expliquez voilà, un petit peu nous ça, Constance.
Alors, je vais vous l'expliquer avec mes mots à moi, parce que je suis pas la scientifique.
Ah bah moi non plus, moi. Je...
Alors, effectivement, ça a beaucoup de vertus et qui sont de plus en plus reconnues. Hein, la gomme arabique, ça a été reconnu comme fibre il y a quelques temps. Donc, c'est une fibre. On sait que ça apporte beaucoup de choses, notamment pour le transit, pour la flore intestinale, etc. Et alors oui, vous avez raison sur le sucre. En fait, la gomme arabique, elle permet. Je vous donne un exemple, ce sera plus parlant.
Oui, voilà.
Dans de la pâtisserie, par exemple, vous faites un gâteau, vous voulez que ce gâteau soit croustillant, soit moelleux, etc. Pour ça,
croustille fondant comme dit la pub.
Pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ça d'instinct? Du sucre, parce que le sucre on l'utilise à la fois pour sucrer, mais on l'utilise pas seulement pour sucrer le sucre. On l'utilise pour la texture,
pour le fluffy, comme dirait Linda.
Pour tout un tas de choses. Et donc la gomme arabique, elle va vous permettre soit à vous particulier, soit à l'industrie agroalimentaire de si vous voulez baisser, amoindrir cette quantité de sucre. Et de la remplacer par de la gomme arabique, justement, qui va avoir cette propriété de croustillance, de moelleux, etc., etc. Donc, vous pouvez, du coup, baisser le sucre dans vos produits tout en gardant votre croustillant, votre moelleux. Et donc, c'est pas mal pour ça.
Bon, alors, la gomme arabique, on parle de cuisine, hein, puisque c'est vrai que c'est un peu le principe de l'émission, mais quand même, ça va intéresser Imane, puisque outre cuisinière influenceuse, elle est aussi modèle à 16 heures. Et donc, pour entretenir sa beauté naturelle, la gomme arabique peut servir, parce qu'on l'utilise beaucoup dans l'industrie cosmétique également, et puis dans des médicaments aussi.
Alors, exactement. Et alors, Cléopâtre même l'aurait utilisé, la gomme arabique.
Bah oui. Les Égyptiens avaient déjà découvert la gomme arabique, et vous allez nous parler des momies après, parce que ça, c'est une anecdote.
Exactement.
Super.
Moi, c'est ça qui m'a, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi cette histoire, pourquoi ce reportage sur la gomme arabique. Ce qui m'a fasciné au début, c'est toute l'histoire de ce produit, en fait, et se dire que ce produit, il est vieux comme le monde. Et donc, on a retrouvé des preuves de son utilisation par les hommes préhistoriques qui s'en servaient déjà de la gomme arabique pour coller, en fait. On a retrouvé aussi des preuves de son utilisation sous la haute antiquité. Donc je disais dans le maquillage qui était utilisé par Cléopâtre et puis par toutes.
On connaissait le kohl notamment, etc.
Exactement. Et
Quelles sont les propriétés sur la peau justement pour le maquillage?
Pour la peau, en fait, pour l'instant, elle n'a pas de propriétés en tant que telle, de bienfaits sur la peau, etc. Mais là encore, elle va permettre de remplacer, par exemple, des produits de la pétrochimie qu'on peut retrouver dans des crèmes. On met beaucoup de produits chimiques dans les crèmes pour le visage. Pourquoi? Pour la texture. Et en fait, la gomme arabique, elle a une grande propriété, un grand pouvoir de texturant, d'émulsifiant et de liant. Et donc là encore, vous allez pouvoir remplacer des produits qu'on n'aime pas trop dans ces crèmes, et surtout à l'heure où...
En étant vegan et bio.
Voilà, exactement.
Parce qu'on trouve
à l'heure
de la gomme arabique bio aussi.
Oui, alors ouais. Mais en fait, la gomme arabique de
elle est plus ou moins bio
d'office. Elle est déjà, en fait, vous voyez, elle est ramassée par les paysans, les récolteurs.
Oui, ça pousse tout seul. Tant qu'on est vraiment dans cette ceinture...
C'est sauvage, ça pousse tout seul. C'est ramassé, il n'y a pas de produits chimiques, etc. C'est ramassé à la main. Ensuite, quand elle est transformée, il n'y a rien qui est ajouté à part de l'eau. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un produit qui est de plus en plus plébiscité, c'est que en fait, c'est un produit qui est 100% naturel. Et on en parlait tout à l'heure, ça commence à se démocratiser un peu, ça commence à arriver un peu dans nos cuisines. On la trouve, et j'espère de plus en plus, on la trouve dans des épiceries spécialisées, des épiceries orientales, on la trouve aussi à l'épicerie du bon marché.
Oui.
On commence à la trouver de plus en plus, en fait, dans les
cuisines. Dans les magasins bio, etc.
Exactement, dans
et
les
magasins
bio. C'est vrai
que c'est la mode, hein, Linda, tu confirmes, c'est la mode du DIY maintenant dans les produits de beauté, les produits cosmétiques. Et je suis sûr que si on fouille un peu sur Internet, on va trouver des petites recettes de produits de beauté avec de la gomme arabique.
Parce qu'elle va vous permettre justement d'avoir une crème qui a vraiment une texture de crème. Oui. Parce qu'on ne veut plus des crèmes chimiques, mais on veut quand même encore avoir nos crèmes qui ressemblent à des crèmes.
Oui, avec la bonne texture.
Et donc là, la gomme arabique, elle va pouvoir intervenir en fait pour remplacer tout ce qu'on n'aime pas.
Oui, puis c'est vrai que la gomme arabique, quand on l'utilise en cuisine, c'est comme un espèce de collagène, de liant.
Exactement.
Donc on se dit que si le collagène est bon pour la peau, pourquoi pas la gomme arabique?
C'est ça. C'est sa première propriété.
Je vais m'entartiner un petit peu parce que
attention, ça peut coller un peu aussi.
Ça va améliorer mon physique de radio et comme ça, je pourrai continuer à faire des émissions avec vous. la gomme arabique, comme vous le disiez, c'est issu des acacias d'Afrique subsaharienne. Quels sont les défis logistiques ou éthiques pour son exportation en Occident et notamment en France?
Alors, les défis logistiques, ils sont assez importants parce que déjà, on le disait tout à l'heure, elle est produite que dans cette petite bande qui est pas, et encore, il y a 4-5 pays à peu près. Hein,
c'est un atout économique pour ces pays en plus.
C'est un atout économique, oui, comme toute production. Donc ça, c'est un atout économique, certes, et puis ça fait vivre à chaque fois beaucoup de foyers, etc. Et alors, par exemple, moi, je vous parle surtout du Soudan parce que c'est le pays dans lequel j'ai enquêté, dans lequel on a fait le reportage, etc.
Et il y a de belles photos aussi du
Soudan,
d'ailleurs, dans le livre.
Pour le coup, le Soudan, c'est vraiment le gros pays producteur de gomme arabique. Et c'est vrai que ça fait pas vivre seulement les récoltants, ça fait vivre toutes les coopératives, ça fait vivre les exportateurs. Donc, pour répondre à votre question, pardon, parce que je dévie un peu, les défis logistiques, ils sont assez importants. Par exemple, si on parle du Soudan aujourd'hui, on sait que le pays est en proie à une grosse guerre civile importante. Donc là, il y a un gros défi logistique qui est évident. Il y a la gomme arabique, elle quitte le Soudan par Port Soudan, par le grand port de Port Soudan. Elle arrive, en tout cas pour les importateurs français, elle arrive au Havre. Donc ça, c'est quand même un gros défi aussi, c'est de pouvoir assurer ce transport. Il faut que la gomme arabique soit protégée parce que la gomme arabique, elle va prendre en fait très facilement les odeurs. Donc on peut pas la transporter, par exemple, à côté de
bananes,
à côté de moutons, à côté de voilà. Donc faut faire attention. Il y a tout un tas de petites choses
c'est
comme ça.
C'est une éponge un petit peu.
Oui, c'est ça. C'est une éponge. Et d'ailleurs, c'est aussi encore une de ces mille et une propriétés et vertus, c'est que on dit que c'est un encapsuleur d'arômes. C'est qu'elle est capable. Donc dans une recette, par exemple, on va s'en servir pour, je sais pas si vous mettez de l'estragon dans votre soupe de courgettes par exemple et que vous voulez qu'on ressente bien l'estragon etc, la gomme arabique elle va permettre de localiser en fait cet arôme. Donc ça c'est sa vertu.
Alors comme le beurre ça conduit la saveur mais ça le cholestérol en moins quoi.
Voilà exactement.
Donc que des bienfaits. Bon, vous restez avec nous Constance, on va avancer un petit peu dans l'émission puisque on a parlé un petit peu de cuisine mais je veux qu'on revienne un peu à la gomme arabique pour parler des momies parce que ça c'est une histoire dingue. Mais d'abord Linda, tu vas nous emmener évidemment de la soul food.
Toujours de la soul food.
Soul food, tu vas nous parler de Mama Jackson.
Tout à fait. Alors Mama Jackson, c'est un restaurant qui se trouve dans le 12e arrondissement et c'est un restaurant de soul food. Moi, je suis fan de soul food. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la soul food, ça vient d'Afro-Amérique et c'est vraiment la nourriture qui fait du bien au cœur, à l'âme. Pas forcément pour la santé, mais ça fait du bien à l'âme.
Mais oui, mais quand on
de
aime,
temps
on
en temps,
pas.
Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est un restaurant où je vais quand j'ai besoin de
réconfort.
Vraiment, c'est très gourmand. Donc la spécialité, c'est chicken and waffle. Donc un peu comme en Louisiane.
Oui, ça, gaufre et poulet frit. Hein.
Poulet frit avec un sirop d'érable. C'est particulier quand on ne connaît pas, mais c'est excellent. Et c'est très, très, très généreux et gourmand. Et c'est pas cher. Évidemment, c'est halal. Et c'est vraiment mon adresse chouchou. En ce moment, en plus, ils font des petites soirées animées. Bon, vous savez que j'aime la musique également.
Bah oui. D'ailleurs, tu participes toi-même à des soirées.
Je participe à beaucoup
dans un autre restaurant. Oui.
Tout à fait. Et donc, la musique vous emmène aux États-Unis également. La décoration est top. Vous avez plein d'affiches d'anciens films afro-américains partout. Vous avez de quoi regarder pendant tout le repas. C'est très, 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 c'est une très bonne adresse. C'est l'adresse préférée de mon fils également.
Oui, voilà. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est assez kids-friendly, hein, pour y aller en famille. Les enfants adorent.
Ouais.
Bon, de toute façon, les enfants, hein, poulet frit, gaufre, c'est le duo gagnant, là, hein.
Complètement.
Ouais, on est tranquille. Et pas que le duo parce que, alors, j'ai enquêté un petit peu, hein. J'ai vu qu'il y avait des authentiques mac and cheese là-bas
qui sont, à mon sens, et je pèse mes mots, les meilleurs de Paris. Vraiment. Ils sont excellents. Ils sont pas trop gras. La quantité, il y a de la saveur. C'est magnifique.
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les mac and cheese, hein, évidemment, c'est des macaronis avec béchamel, cheddar, parmesan et mental, le tout bien gratiné au four.
Avec des petits oignons frits sur le dessus.
Oh là là, mon
excellent.
Dieu.
Excellent. J'en salive.
Magnifique, magnifique. Et ils font, alors j'ai trouvé ça sympa parce qu'il y a aussi des petites innovations. C'est comme des arancini italiens. Hein, c'est des petites boulettes de mac and cheese frites.
tout à fait.
Alors ça, c'est sympa, c'est original.
C'est original et c'est vraiment très goûtu pour le coup. On n'a pas la lourdeur du cheddar en bouche. C'est assez épicé, mais très doux. Donc on n'est pas sur quelque chose qui va juste prendre du gras et c'est excellent.
Bon, Constance, on s'est échangé quelques adresses avant le début de l'émission. Là, vous
je
en avez une de plus.
Je vais prendre le nom, s'il vous plaît.
Mama Jackson, Mama 12 Jackson. Rue Claude Tillier, Paris 12e.
Voilà. En plus, c'est pas très loin d'ici. Vous pouvez même y aller en sortant, si vous voulez, Constance.
Et en ce moment, ils font des brunchs all day. Donc, tous les jours, vous avez une petite formule brunch qui est sympa. Quand on a envie de faire de son lundi un dimanche, c'est sympa.
Oui, oui, alors, absolument. Alors, il n'y a pas de formule, hein, de ce que j'ai vu. Il n'y a pas de formule spécifique pendant le ramadan, etc.
Non, pas pendant
mais,
le
ramadan. Mais, toute façon, tant mieux, parce que, souvent, c'est vrai que pendant le ramadan, il y a des restaurants qui imposent un menu et qui ne font rien d'autre. Là, on se fait son menu à la carte.
Complètement.
Et il y a plein de bonnes choses, hein. Vous pouvez aller sur leur Instagram, mamajackson-8 restaurant. Vous allez voir les photos. Rien qu'en regardant leur compte Instagram,
oui,
j'ai pris 5 kilos. Allez, on fait une pause pour digérer tout ça et on se retrouve avec Constance, notre invitée du jour, et puis Linda. À tout de suite.
Chacun son tour revient dans un instant.
Suivez Chacun son tour avec la nouvelle gamme halal de Oanam.
16h, 17h, Chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans Chacun son tour avec notre invitée du jour, Constance de Bonaventure. Alors, ce n'est pas une voyante, hein. Elle ne dit pas la bonne aventure.
Pas encore.
Désolé pour la vanne. On a dû vous la faire 10 millions de fois.
Ouais, à peu près. C'est à peu près ça.
Super. Bon. Et puis, Linda, Let's Cook Tonight, notre chroniqueuse du jour. Et Saïf, qui est en train de nous rejoindre. Saïf, il est dans les embouteillages, hein. Une fois encore. Ça, on le fait souvent parce que je sais que ça arrive à ses oreilles après. Parce qu'elle a beaucoup de gens à la mairie qui écoutent tous les médias pour savoir ce qui se dit d'elle. Donc, nous saluons Anne Hidalgo, comme d'habitude.
Très chaleureusement.
Et on la remercie très chaleureusement de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire nos émissions dans des conditions normales, car nos invités et nos chroniqueurs n'arrivent jamais. Voilà, moi je suis parti hier soir pour arriver à l'heure. Donc tout va bien.
Voilà.
Tout va bien. Bon, enfin bref. Anne, si tu nous écoutes, on t'embrasse.
On t'embrasse très
voilà.
Fort, Anne.
On t'embrasse. Et puis, désolé pour les sondages qui viennent de sortir. Ça doit être un coup dur. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va revenir à des sujets plus intéressants quand même. La gomme arabique, hein, puisque vous avez sorti aux Ediflon. Enfin, vous allez sortir le 3 avril. Hein.
Tout à fait.
On est un petit peu en avance. Les secrets de la gomme arabique aux éditions Flammarion. Un très beau livre. Puis ça, une idée de cadeau en plus en ce moment. Hein. Pendant le ramadan, il y a beaucoup de cadeaux qui se font. Ça vaut 33€ par rapport au prix du billet d'avion pour voyager, parce qu'on voyage vraiment avec le livre et les photos. Hein.
Oui, c'est sûr que c'est plus intéressant d'acheter le livre.
Ouais. Alors, la gomme arabique, vous avez donc beaucoup travaillé dessus. Quelles sont les choses, allez, une ou deux histoires vraiment surprenantes que vous avez découvertes pendant vos recherches sur la gomme arabique?
Alors, la première, c'est une histoire très ancienne. C'est qu'en fait, la gomme arabique servait dans le processus de momification.
Ah.
Comment? Eh bien, en fait, vous visualisez un peu une momie. Voilà, on utilise des bandelettes. Eh bien, pour coller les bandelettes entre elles, pas moi évidemment, mais les historiens.
vous faites pas votre âge, Constance.
Hérodote en a parlé même dans ses écrits. Il a expliqué justement tout ce processus de momification. Et en fait, ça servait de colle, tout simplement.
Mais on peut même imaginer, si on extrapole, que si les momies sont aussi bien conservées, c'est parce que cette colle que constitue la gomme arabique a des propriétés de conservation aussi.
Alors je vous laisse le dire si vous voulez. Peut-être non mais peut-être.
J'essaie peut-être, juste de raisonner.
En tout cas, la gomme arabique a aussi, parmi ses mille et une propriété de conservateur. Donc peut-être que oui, ça pourrait aider, faciliter en tout cas la conservation des momies. Et d'ailleurs, elle était aussi utilisée sous la Haute Antiquité pour les papyrus en fait. Un papyrus, c'était pas une feuille blanche
c'était
comme on a aujourd'hui.
Glacée de l'époque, c'était, c'est ouais, ça. Ouais.
C'était des petites bandelettes aussi qui étaient collées entre elles pour former une feuille, l'ancêtre de la feuille de papier.
Alors ça tombe bien puisque nous sommes en plein ramadan. Vous avez aussi découvert des choses sur la gomme arabique dans les écoles coraniques du Soudan.
Voilà, exactement. Alors on a essayé aussi de s'intéresser, d'essayer de voir comment, localement, comment les gens, en tout cas pour nous les Soudanais, parce qu'on était au Soudan, comment ils utilisaient la gomme arabique. Nous, c'est vrai qu'en France, on en parlait tout à l'heure, c'est pas encore arrivé dans nos cuisines. Là-bas, ils l'utilisent un peu dans la cuisine. cuisine du quotidien. Il l'utilise, alors il lui approprie aussi des vertus médicales qui sont pas encore scientifiquement prouvées, mais on dit là-bas que ça répare les maux de gorge, que ça facilite le transit, que ça a tout un tas de vertus médicales. Et puis, ce qu'on a découvert, ce qu'on a vu, ça sert aussi dans les écoles coraniques, les kalwas qu'on appelle là-bas comme ça. Les garçons utilisent la gomme arabique pour fabriquer de l'encre, en fait.
Oui, et maintenant, ils mélangent ça à des pigments, en fait.
Des pigments à du charbon, oui. De bois. Tout est pillé, concassé. La gomme arabique qui récupère de manière totalement brute, qui récupère comme on la voit dans le livre au début, je trouve plus le mot, mais
en sève séchée.
En nodule.
Oui.
Il la récupère comme ça.
Comme des cailloux, un peu.
Ouais, voilà, ça. Exactement, comme un caillou. Il la récupère, il la casse, il la broie avec le charbon. Il mélange ça à de l'eau et ça fait en fait une forme d'encre, enfin une encre un peu pâteuse. Ils trempent soit une plume quand ils en ont, soit un bout de bois dedans, et ça leur permet d'écrire sur des tablettes
de
bois.
Faire la calligraphie arabe.
Voilà,
pour
exactement.
Écrire les versets
c'est très
du Coran.
Très beau.
C'est poétique, quand même.
C'est très très beau. Et ce que nous disait le professeur, il nous disait en plus de ça, c'est écolo parce que on peut l'effacer avec du sable et de l'eau. Et c'est vrai, ils nous ont montré les petits garçons dès qu'ils se trompent en fait.
C'est la gomme. C'est la gomme de la gomme arabique. Le sable et l'eau.
Exactement. Et donc on peut effacer, si on s'est trompé sur un verset ou je ne sais quoi, ou sur une lettre, une calligraphie, on peut effacer et réécrire. Voilà. Donc c'est encore utilisé, alors pas dans les écoles, pas dans toutes les écoles, mais en tout cas on a vu que c'était utilisé. Voilà. Et là-bas c'est vendu sur tous les marchés, c'est vendu dans les pharmacies, sur les marchés de nourriture, etc. C'est assez, c'est assez utilisé, c'est assez développé au Soudan. La gomme c'est connu, c'est...
Bon, tout plein d'histoires, en tous les cas, à retrouver dans le livre de Constance de Bonaventure, Les secrets de la gomme arabique, aux éditions Flammarion. Guettez bien la sortie, c'est le 3 avril. Et vous pouvez le trouver, donc, évidemment, dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, Fnac.com. C'est 33€, c'est beaucoup moins cher qu'un billet d'avion pour voyager et pour faire le tour de la gomme belt,
La
ceinture de la gomme en Afrique, parce que on voit que vous avez travaillé pour Géo, vous avez fait des reportages pour Arte aussi, vous avez fait des choses, parce que les photos sont magnifiques et on voyage vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Alors, Saïf vient d'arriver. Salut, Saïf.
Bonjour tout le monde, désolé.
Mais pourquoi t'es essoufflé comme ça?
Parce que je suis en train de cavaler comme un fou dans les escaliers là pour arriver. Comme vous l'avez si bien dit, merci à Anne Hidalgo.
Ben voilà.
Pour ce plaisir. Hein.
À toi aussi, tu cherches les problèmes.
Je suis sorti 1h30 à l'avance.
D'accord.
Tu te rends compte ou pas?
Ouais, non, c'est dingue. Incroyable. C'est impossible de circuler à Paris aujourd'hui.
C'est trop.
Bon, on espère quand même que. Bon, de toute façon, ça tombe bien, tu vas nous parler c'est une enseigne, il y a deux adresses, il n'y en a aucune des deux qui sont à Paris, donc ça veut dire qu'on peut y aller quand même.
Non, ouais, hein. C'est en banlieue.
C'est la petite touche sucrée pour la fin de l'émission.
Exactement. La dernière fois, j'ai parlé de cuisine tunisienne. Là, je repars sur du sucré, sur des petits plaisirs.
Oui, puis je sais pas si tu goûtais dans la voiture en arrivant, mais
j'ai goûté.
Chef Enzem, c'était Loja à la tunisienne.
Magnifique, hein. D'ailleurs, j'ai son.
On l'a fait pour toi, Saïf.
Ah, ouais, franchement, merci. Ça m'a réchauffé le cœur dans la voiture, dans les bouchons. Et donc là, je vais te parler de Enjoy Bubble. Donc c'est une enseigne qui propose des bubble tea ainsi que des waffles, des crêpes aussi, tout fait maison.
Bon, on est très waffle aujourd'hui, hein, puisqu'il y avait des waffles avec les.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait attention parce que je connais ma coffee, c'est excellent.
Bah, c'est bien puisqu'on parlait de gomme arabique, hein, les waffles avec la gomme arabique qui sont très encore plus fluffy.
Oui, je pense que
hein.
Ça peut gonfler, hein, faire gonfler un peu le.
Ouais, ça va faire des vrais bubbles quoi, des vrais waffles bubbles. Et donc Enjoy Bubble en fait c'est une enseigne qui fait des bubble tea, des waffles, ils font tout maison, ça qui est vraiment intéressant.
Oui, c'est pas les bubble tea où ils achètent tout industriel dans des seaux là, tout est.
Ouais, voilà, c'est vraiment même en ce qui concerne les smoothies avec des vrais fruits frais.
Des vrais fruits frais.
Pas des fruits congelés qu'on achète en sachet dans les chez les fournisseurs. Donc franchement, moi ça m'a marqué parce que j'ai passé une après-midi là-bas, j'ai goûté pratiquement toute la carte, justement pas. Hein, on est resté là-bas, on a goûté un peu à tout et franchement.
Oui, d'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, hein, 10 000 calories avant, vous regardez sur l'Instagram de Saïf, hein, Saïf92U. Saïf fait beaucoup d'humour sur son compte Instagram, mais il y a aussi un peu de food, et c'est pour ça qu'il est là. Et donc, vous avez une belle vidéo chez Enjoy Bubble. Alors, il y a deux adresses, hein. Il y en a une à Clichy-sous-Bois, il y en a une autre dans le Val-de-Marne, à Bonneuil-sur-Marne.
Exactement.
Les adresses, vous les trouvez, je donne l'Instagram, hein, c'est Enjoy Bubble-8 Official, avec un A, pas officiel, mais official. Je prononce bien.
Oui, c'est bon, parfait.
C'est l'américaine du.
Quel accent, Manu. Incroyable.
T'as vu ça? Ouais. Ouais, bah, me demande pas de faire la même chose en tunisien.
Hein. C'est plus chantonnant, le tunisien.
Bon, quel est, et donc, de tout ce que t'as goûté, toi, là-bas, c'est, quel est ton produit préféré chez eux?
Bah, moi, je suis quelqu'un de classique et c'est vraiment les crêpes qui m'ont. Franchement, la pâte, leur pâte à crêpes est excellente. Je me suis vraiment régalé en mangeant une crêpe là-bas, une bonne crêpe salée. Avec de l'emmental. Moi, je suis classique. Hein. C'est la complète œuf, jambon, fromage.
Oui, parce que sur celui de Bonneuil, ils sont couplés avec fête à crêpes. Je
en
crois,
fait, c'était un fête à crêpes. Ouais. De base, c'était un franchisé fête à crêpes, mais vu que la franchise fête à crêpes, ça, je crois qu'elle a été.
Ça s'est cassé la figure.
Ça s'est cassé la figure.
Ils ont gardé les crêpes, mais ils ont rajouté.
Voilà, exactement. Ouais. Ils ont vite rebondi. Ils ont fait un truc à leur sauce.
Bon, bah, c'est plus. Allez, voilà. Enjoy Bubble, tiré du 8 official. Bon, on arrive au terme de l'émission. Linda, il faudra que tu reviennes parler un peu plus de Majouja parce qu'on n'a pas eu le temps. On devait lancer des jeux concours, c'est pas grave, vous venez demain dans le tour du monde. On va partir en Algérie avec Anan Abdelli du restaurant Mamanissa et on vous prépare un menu derrière les fagots, oubliez la chorba frite, la rechta, tout ça, les grands classiques, c'est terminé. Nous, on va vous faire un menu génial. Et puis vous allez sur mon Instagram, mariani.manuel, il y a des jeux concours. Comme on peut pas faire le tirage au sort, bah, ça joue toujours, alors allez-y, vous pouvez encore jouer pour gagner du foie gras, un livre de Merouane, du chef Merouane, etc. On vous embrasse et on se retrouve demain. Et merci à Constance pour
merci
votre
à
beau
vous,
livre.
Merci de m'avoir invité.
Et d'être venu nous en parler. Allez, à demain et vous restez avec nous puisque maintenant c'est Philippe Robichon et son équipe pour Ramadan Inco.
Retrouvez chacun son tour tous les jours de 16h à 17h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
C'était chacun son tour avec la nouvelle gamme halal de O'Hanam. Succombez au goût de l'Asie avec la nouvelle gamme halal de O'Hanam. Némélu, saveur de l'année 2024, samoussa, brioche et bouchée au filet de poulet halal origine Europe. Disponible chez O'Hanam Traiteur, Paris 13e, H Market et Tang Frères.